Vous écoutez On lit pour vous.
Gazouillis, prise de bec et combat de coq. Un texte de Boukhar Diouf, paru le 7 juin 2025 dans la presse. Je voulais vous parler de ça clique, mais étant donné que ça ne clique plus entre les deux méchants moineaux trumpistes dont les gazouillis se sont transformés en prise de bec et combat de coq, je vais plutôt rester dans le monde des oiseaux. Dans le quartier que j'habite à Longueuil, les générations qui nous ont précédés ont eu la délicatesse de préserver les vieux arbres qui surplombent nos maisons, des géants enracinés devenus des habitats de prédilection pour les écureuils et une multitude d'espèces d'oiseaux. Chaque fois que je suis plongé dans cet univers sonore surplombant notre bungalow, un sentiment de paix intérieure m'envahit. Et je remercie du fond du cœur les généreux qui nous ont légué ce précieux héritage. Mon patriarche faisait partie de ces humains qui plantaient des arbres pour le bien de ceux qui allaient suivre. Il professait qu'il y avait une grande solidarité intergénérationnelle dans le fait de planter un baobab. On le fait avec la certitude de ne jamais manger de ses fruits. Quand j'étais enfant, papa soignait les jeunes baobabs dans nos champs comme on dorlote un enfant. 60 ans plus tard, ses pieds ne produisent pas encore de fruits. Il s'occupait des jeunes pousses de cet arbre atypique pour rembourser aux générations à venir ce qu'il devait à ceux qui avaient généreusement soigné les géants qui faisaient le bonheur de notre famille. Lorsque le temps a commencé à effacer une partie de son disque dur cérébral, chaque fois que je me promenais avec lui dans les baobabs, il répétait les chants de certains oiseaux qui émanaient de leur frondaison. En fait, il mettait des mots de notre langue sur le chant des oiseaux. Il racontait qu'une tourterelle locale suppliait sa mère de lui trouver un talisman qu'elle porterait au cou pour se protéger des mauvais esprits. Le petit Calao, disait-il, passait sa journée à appeler son oncle, pendant qu'un autre passereau suppliait le Créateur de ramener les nuages pour le protéger du chaud soleil. De nombreux oiseaux de notre savane racontaient des histoires que mon père se risquait à nous traduire. Même la maladie d'Alzheimer n'a pas réussi à effacer dans son cerveau ce ludique regard qu'il portait sur le peuple à plumes. Comme lui, je suis fasciné par les mélodies aviaires qui ont toujours stimulé l'imaginaire humain. À l'époque de Charles Darwin, on pensait que ce sont uniquement les mâles qui chantent. Un biais systémique qui s'expliquait par le fait qu'en ces temps de phallocratie victorienne, la séduction active, c'était juste une affaire de mâle. La femelle devait rester farouche devant les coqs qu'on voulait plus entreprenants et conquérants. Cette représentation, qui avait le seul mérite de ne pas bousculer les codes sociaux et la religiosité de l'époque, est ce que Noémie Langmore de l'Université de Cambridge qualifie de définition androcentrique du chant des oiseaux. Aujourd'hui, on sait que beaucoup de femelles chantent, surtout celles d'espèces qui vivent sous les climats tropicaux. Mâles et femelles chantent pour séduire, défendre un territoire, communiquer avec leurs semblables, coordonner les activités sociales, exprimer des émotions, renforcer leurs liens sociaux et pour bien d'autres raisons qui échappent probablement encore à notre compréhension. Peut-être qu'ils chantent pour remercier les gens qui ont eu l'intelligence de protéger leur habitat, un peu comme j'écris ce texte pour faire la même chose. Les oiseaux chanteurs représentent près de 60% de la biodiversité aviaire. Ils possèdent un syrinx, une structure musculaire comparable à un larynx et qui leur permet d'émettre ces sons qui nous touchent le cœur. Les bienfaits que nous procurent leurs vocalises nous rappellent que la vie est bien plus douce quand les humains partagent l'espace avec la biodiversité. Les gens comme mon père, qui ont passé toute leur vie en contact étroit avec la nature, savaient par expérience que leur santé était indissociable de celle de l'environnement qui les entoure et de la biodiversité qui l'habite. On a aussi longtemps pensé que la monogamie était la règle chez les oiseaux dont les mâles s'adonnaient à ces sérénades prénuptiales. On les voyait un peu romantiquement, comme les modèles de couple à copier. Ce qui explique peut-être l'omniprésence des références aviaires dans notre champ lexical conjugal. Ainsi, lorsqu'on rencontre une belle poulette en faisant le coq, il arrive qu'on s'installe dans un nid douillet conjugal. Si, après quelques mois de roucoulement, il n'y a pas de prise de bec, les deux tourtereaux peuvent rêver de dorloter dans une coquille un poussin qui volera un jour de ses propres ailes. Pourtant, tout comme le chant qu'on croyait faussement être une activité réservée aux mâles, on sait aujourd'hui que ce modèle du couple aviaire fidèle est une utopie. Près de 90% des femelles oiseaux s'accouplent avec plusieurs mâles. Ici, la monogamie est plutôt sociale, ce qui veut dire que le couple entretient des liens sociaux et parentaux stables pour l'élevage des petits, mais les deux partenaires peuvent sauter la clôture qui délimite le nid conjugal. Oui, on pense qu'il existe des cas de monogamie dite génétique, mais elles sont plus rares. Les couples d'albatros sont souvent cités comme les modèles d'exclusivité conjugale dans le monde des oiseaux. Les oiseaux ne chantent pas pour nous, mais leurs mélodies nous font certainement du bien. La biophilie est un concept qui a été popularisé en 1984 par le biologiste américain Edward O. Wilson. De quoi ça cause? Notre lignée ne peut pas avoir évolué pendant plus de 99% de son existence en étroit contact avec la nature et s'en couper de façon draconienne sans encaisser des conséquences néfastes pour sa santé physique et mentale. Notre corps ne peut donc pas être totalement indifférent au chant des oiseaux qui ont bercé nos ancêtres pendant cette interminable période de l'histoire de l'humanité qui a précédé la sédentarisation. Sans jamais avoir mis le pied dans une école, et encore moins dans un cours de biologie, mon père disait qu'il allait se soigner dans la brousse en écoutant les oiseaux chanter. Je crois avoir hérité de cette sensibilité. Quand je retourne dans nos champs au Sénégal et que je retrouve les mélodies des espèces qui ont bercé mon enfance, il m'arrive d'être profondément touché. Comme mon papa, il m'arrive aussi de décrypter humoristiquement ce que disent les oiseaux. D'ailleurs, cette semaine, j'ai entendu une tourterelle exotique décliner une triste litanie. Elle disait « Pendant que les premiers ministres des provinces et des territoires parlent d'oléoduc avec enthousiasme, les feux font rage dans les prairies canadiennes pour rappeler à tous que se mettre la tête dans les sables bitumineux ne peut pas être la solution. » Est-ce que les chants des oiseaux vous font du bien? C'était « Gazouillis, prise de bec et combat de coq », un texte de Boukhar Diouf paru le 7 juin 2025 dans La Presse.
Faut-il mentionner dans son CV un emploi dont on a été viré? Un texte de Carla Miller du Washington Post, paru le 27 mai 2025 dans La Presse. Question. Mon fils vient d'être congédié après 4 mois dans un nouvel emploi pour lequel il avait déménagé. C'est en grande partie de sa faute. Il lui a fallu du temps pour obtenir un rendez-vous médical et il a tardé à se faire prescrire des médicaments contre le TDAH. Il a fait des erreurs qui ont coûté de l'argent à l'entreprise. Il semble se reprendre en main et recommence à postuler de nouveaux emplois et il a ses médicaments. Doit-il mentionner cet emploi, sur son CV? Comme il vient d'emménager dans cette nouvelle ville, ce serait crédible de prétendre avoir pris le temps de s'installer. Je sais que ce n'est pas bien de mentir, mais peut-il omettre cet emploi? Cela étant, il a quand même fait de bonnes choses et son ancien employeur est prêt à lui donner une bonne recommandation. Y a-t-il une façon d'aborder ce sujet en entrevue? Réponse. Dans un monde idéal, expliquer qu'on a dû quitter un emploi pour résoudre un problème médical qui affectait sa performance ne serait pas un handicap. Mais dans un monde idéal, rencontrer un médecin serait facile, ce qui aurait évité cette situation. Comme ce scénario idéal n'existe pas, concentrons-nous sur ce qui est pratique. Présenter sa candidature à un emploi consiste à mettre en avant ses atouts. Un CV est un résumé de ses points forts, pas une encyclopédie. Une interruption de quelques mois entre deux emplois n'a rien d'anormal, même dans un marché favorable. Bref, omettre cet emploi de courte durée dans le parcours professionnel de votre fils éviterait probablement plus de questions que le mentionner n'en soulèverait. Mais le monde est petit, et personne n'est à l'abri de la loi de Murphy qui dit que tout ce qui peut mal tourner finira par mal tourner. Donc, s'il supprime cet emploi de son CV, il doit tout de même être prêt à répondre à la question inévitable « Si le chat sort du sac, pourquoi et comment a-t-il quitté son emploi après une si courte période ?» Répondre « Ce n'était pas fait pour moi » est vague à souhait, mais l'employeur voudra sans doute avoir des détails, ne serait-ce que pour voir s'il a affaire à un employé qui démissionne à la première contrariété. L'argument « problème de santé » est à la fois vrai et compréhensible, mais on voudra savoir si ce problème risque de se reproduire et d'affecter à nouveau sa performance. S'il choisit cette option, il devra trouver un récit simple et rassurant, tout en ne divulguant que les détails personnels qu'il souhaite. Comme le TDAH est reconnu comme handicap par les lois assurant les droits des personnes handicapées au travail, certains employeurs potentiels pourraient éviter les questions à ce sujet. Alors, s'il peut devancer leurs préoccupations et leurs suppositions tacites avec un récit factuel et bien préparé, tant mieux. La recommandation de son ancien employeur, soulignant sa diligence et sa fiabilité, peut montrer que son récent revers était une exception. Au-delà de cette préparation à l'entrevue, il va sans dire qu'il doit aussi réfléchir à des stratégies pour éviter les erreurs qu'il a faites. Ainsi, dans certains emplois, les erreurs n'impliquent pas nécessairement un coût financier grave. Ou encore, il y a dans le système assez de contrôle et de vérification en aval pour rattraper une inattention. La bonne nouvelle, c'est que la neurodiversité est mieux connue et comprise. De plus en plus d'employeurs avant-gardistes considèrent le TDAH comme une variable supplémentaire à prendre en compte dans la gestion d'une main-d'œuvre inclusive et performante. Il est possible qu'ils finissent par travailler pour une entreprise où on peut parler ouvertement de son TDAH avec ses supérieurs et trouver des solutions et des aménagements lui permettant de toujours donner le meilleur de lui-même. Soit dit en passant, je comprends que votre fils doit reconnaître son rôle dans sa mésaventure, mais dire que c'est de sa faute est un peu réducteur. Un TDAH non traité rend difficile l'accomplissement des tâches, y compris l'obtention d'un traitement. En outre, peut-être a-t-il ressenti le besoin d'essayer de se débrouiller sans médicaments, ce qui l'a mis dans le pétrin. Espérons qu'il s'agisse là d'un écueil de la vie adulte qui ne cause pas de dommages à long terme et qui rend meilleur une leçon durement acquise, mais qui aide à se connaître soi-même. C'était « Faut-il mentionner dans son CV un emploi dont on a été viré ?» Un texte de Carla Miller du Washington Post, paru le 27 mai 2025 dans la presse.
Florence Sabatier, saisir la beauté. Propos recueillis par Alexandra Mignot, paru le 10 juin 2025 dans Les libraires. L'artiste Florence Sabatier crée des illustrations colorées et lumineuses qui sèment la joie et enjolivent les détails du quotidien. Son talent se déploie notamment dans Soleil et Lilou de Lucie Papineau, Grund, Québec, qui aborde le deuil animal. La collection documentaire « Mes docu pour emporter » Bayard Canada et « Des nouvelles de l'espace » Bayard Canada. Dans ce dernier ouvrage, 16 capsules historiques s'entremêlent à des lettres fictives permettant de découvrir les confins de l'univers et de s'émerveiller devant l'infini. Qu'est-ce qui vous a mené à faire carrière en tant qu'illustratrice? Comme beaucoup de personnes dans mon métier, je pense, j'ai commencé à dessiner lorsque j'étais enfant et je n'ai jamais vraiment arrêté. Avec du recul, c'était comme une évidence, sans que j'en aie conscience, enfant. Aujourd'hui, je ne me verrais vraiment pas faire autre chose. Il y a ce quelque chose de particulier avec l'art, de manière générale, qui donne l'impression d'un besoin quasi vital, comme quelque chose qui m'anime au quotidien et qui m'apporte tellement de joie que, d'une certaine manière, c'est impossible d'imaginer mes journées sans. J'adore la variété et la richesse de ce métier. Mon emploi du temps change constamment. Je ne dirais pas que c'est tous les jours facile, mais je me sens vraiment très privilégiée et chanceuse d'exercer un métier aussi chouette. Je n'aurais pas pu mieux choisir. Qu'aimez-vous particulièrement dans le fait d'illustrer des livres? Travailler sur un livre prend toujours beaucoup, beaucoup de temps. Et chaque fois, après tout ce temps passé déçu, il y a ce quelque chose de particulier de pouvoir enfin voir le résultat sur papier entre ses mains ou d'apercevoir en vitrine l'un de ses livres accompagné de tant d'autres. J'ai toujours beaucoup lu depuis mon enfance et les livres ont une place vraiment importante dans la vie de manière générale. Je suis très heureuse d'imaginer qu'un livre auquel j'ai participé puisse avoir un impact particulier sur quelqu'un. Est-ce un grand défi que de mettre en image les mots d'une autre personne? Oui, vraiment. En édition, c'est un peu particulier, car on est rarement en contact avec l'auteur ou l'autrice, alors on se base surtout sur un texte et ce que la personne qui est responsable du projet nous communique comme information. C'est pour cette raison, je pense, qu'il est important de travailler sur des projets qui nous parlent afin de créer ce pont entre le texte et nos illustrations pour les rendre un peu plus personnels et y mettre le plus de cœur possible. Quels sont les thèmes qui vous inspirent dans votre travail? Le quotidien, de manière générale. Je suis une collectionneuse de petits détails, à cultiver le fait de m'émerveiller de tout et d'être constamment à la recherche du beau autour de moi. J'ai toujours le nez en l'air en me baladant, à regarder et prendre en photo tout ce que je vois, à conserver des morceaux de films dont je trouve les plans beaux, comme une gigantesque bibliothèque personnelle pour pouvoir retourner piocher dedans et m'inspirer. J'aime beaucoup travailler autour de la couleur et de la lumière, Et les saisons me font aussi souvent changer de thématique et d'ambiance. Je traite aussi souvent de sujets entourant la santé mentale dans mes projets personnels, et c'est quelque chose que je souhaite continuer d'explorer, sans pour autant entretenir cette image de l'artiste torturé. Mettre un peu de moi dans ce que je fais m'inspire toujours beaucoup. Vous avez illustré « Des nouvelles de l'espace » de Lorraine Smag, Bayard Canada. Qu'est-ce qui vous fascine dans l'espace? Petite, j'ai eu la chance d'avoir toujours les yeux tournés vers le ciel et l'espace. Mon père aidait à animer les régulières « Nuits des étoiles » dans mon petit village en aidant à installer le télescope, et ça m'a beaucoup marqué. Ce côté à la fois magique et étourdissant de l'espace lorsqu'on comprend qu'il est infini. Surtout pour une enfant, de réussir à imaginer ce concept-là et en même temps de ne pas vraiment réaliser que l'espace que l'on a devant soi est encore plus grand que ce que l'on pourrait imaginer. Cette grandeur nous permet aussi de nous rappeler que, finalement, nous ne sommes vraiment que de toutes petites personnes. Ça aide à beaucoup relativiser, d'une certaine manière. Le fait que l'on soit encore bien loin de tout savoir a cette saveur un peu chouette que l'on a lorsque l'on est enfant, à nous pousser à continuer de nous interroger sur tout. Je serai toujours une grande enfant, et je trouve ça chouette de pouvoir le cultiver à travers ces sujets au sein de mon métier. Au début de ce livre, on peut lire votre dédicace. Pour tous les enfants qui ont les yeux qui brillent en regardant le ciel et les possibilités infinies de pouvoir rêver grand. Comme le ciel et l'espace, diriez-vous que l'art permet de rêver grand? Oui, je crois. On peut tout faire avec l'art, peu importe la discipline et les outils, et c'est ce que j'aime le plus là-dedans. J'essaye aussi, le plus possible, de me rappeler que c'est juste de l'art, que l'objectif principal est surtout de s'amuser et de continuer d'entretenir le bonheur que l'on a à créer. C'est le plus important et ce qui est le plus précieux à mes yeux. Pouvoir réussir à cultiver notre joie au quotidien, même à travers de toutes petites choses. Quel a été votre processus créatif pour illustrer la série de documentaires jeunesse de Réa Dufresne, Fruits et légumes du Québec, Grottes et cavernes du Québec, Insectes et bestioles du Québec, etc. chez Bayard Canada? Ce projet a été créé à la suite d'une série d'illustrations que j'avais créées, juste pour m'amuser, en mêlant des petits animaux à des photographies que j'avais prises au Québec. C'est amusant parce que je n'étais pas du tout dans l'idée que cela ne devienne quelque chose d'autre que juste un projet personnel. Et finalement, elles ont beaucoup plu et ont mené à cette collection. Même si elles diffèrent complètement de mon travail et de ce que je fais au quotidien, j'aime beaucoup voir ces petits livres s'accumuler au fil des années. Je suis certaine que c'est le genre de livre que j'aurais aimé avoir dans ma bibliothèque enfant. Dans vos travaux personnels, nous trouvons des illustrations de couverture de livres comme « Conversations with Friends » de Sally Rooney et « The Song of Achilles » de Madeline Miller. Pouvez-vous nous parler de ce projet d'illustration? J'aime toujours beaucoup me créer des mini-projets personnels, comme pour celui des « docu pour emporter » dont je parlais juste avant. C'est ceux qui me permettent d'explorer, d'essayer, de voir ce que j'aime faire et ce vers quoi j'aimerais aller. C'est aussi souvent grâce à des projets personnels que j'ai pu être contactée pour travailler sur de nouveaux projets, et je pense que c'est assez révélateur. C'est en faisant des choses que l'on aime, sans aucune contrainte, que l'on peut vraiment s'épanouir. Cependant, j'aime beaucoup me mettre un cadre dans ces projets, comme si j'étais ma propre cliente. Pour ces deux couvertures, je crois que ma seule contrainte personnelle était de ne pas y passer trop de temps et de choisir des livres que j'avais vraiment aimés. Donc, pas une si grande contrainte que ça. D'ailleurs, peut-être que je devrais poursuivre cette série et illustrer d'autres couvertures. Que souhaitez-vous nous transmettre à travers vos illustrations? De prendre le temps de s'arrêter un peu dans un monde qui va très vite et de s'encourager à regarder partout autour de soi. C'est un métier passion, comme on dit, mais ce n'est pas un métier toujours très doux et stable pour l'esprit. Alors chaque fois, j'espère pouvoir interpeller les gens s'il s'agit d'un sujet un peu plus militant. Mon travail est, d'une certaine manière, toujours très politiquement teinté de mes engagements féministes, mais également, ces derniers temps, marqué par la présence, à mes yeux, malheureuse et de plus en plus fréquente, de l'intelligence artificielle qui a un impact profond sur notre métier, déjà assez précaire, et la nécessité de protéger nos droits. J'aimerais vraiment accentuer la direction de mon travail dans ce sens pour mettre mes illustrations au service de sujets qui me tiennent à cœur. Y a-t-il un projet de livre que vous rêvez secrètement d'accomplir? J'aime surtout beaucoup varier les supports et les sujets pour me sentir constamment inspirée en réalité. J'aimerais beaucoup travailler sur des ouvrages moins jeunesse, mais aussi faire un peu plus d'éditorial et d'illustration événementielle. Je traite souvent du sujet de la santé mentale dans mes projets personnels et c'est une thématique que j'aimerais beaucoup continuer d'explorer, tant je la trouve importante et très large en termes d'angles possibles. C'était Florence Sabatier, Saisir la beauté. Propos recueillis par Alexandra Mignot, paru le 10 juin 2025 dans Les Libraires.